France Culture.
Réplique, mon père, ce anti-héros, avec Andrea Bayani et Anthony Passeron. Ce sont des histoires de famille douloureuses que relatent Anthony Passeron et Andrea Bayani dans leurs romans respectifs « Jackie » et « L'anniversaire ». Les pères des deux narrateurs, en effet, sont des anti-héros. Commençons par le vôtre, Anthony Passeron. Qui est-il? D'où vient-il? Quel métier exerçait-il, Anthony Passeron?
Jackie, c'est le dernier fils de la famille Passeron, depuis des générations, dans ce petit village de l'arrière-pays niçois, a exercé le métier de boucher-charcutier. C'est un enfant des années 60 qui va prendre son poste à la boucherie aux alentours des années 75-76. Et il va commencer son travail dans un village qui périclite. Et alors que son métier, celui de son père, celui de son grand-père, avait fait son nom, sa réputation, son honneur, tout d'un coup, quelque chose va péricliter avec ce qu'on pourrait appeler maladroitement la mondialisation, la globalisation, la métropolisation. D'autres le diraient mieux que moi, mais c'est le dernier d'une lignée. En l'occurrence, ce qui m'a intéressé dans sa trajectoire, c'est que sa chute économique professionnel se transforme progressivement en un échec de sa paternité. Et à ce titre, il devient un anti-héros. On aura l'occasion d'en parler avec Andrea, je pense. Tout mon travail se résume à essayer de trouver des circonstances, des causes exogènes à la destruction de ma famille. Et donc, je suis toujours en train de remettre cet homme dans son métier, dans sa géographie, cette petite vallée enclavée de l'arrière-pays niçois, qui est à la fois extrêmement proche de la Riviera française et en même temps à des années-lumière culturellement, économiquement, etc. Et en l'occurrence, Jackie est l'histoire d'un abandon progressif d'un père raconté à travers les yeux de son fils.
Un abandon, c'est-à-dire qu'il vous a abandonné?
Absolument, littéralement, tout à fait.
Tout à fait, il est parti.
Exactement.
Sans laisser d'adresse, en l'occurrence.
Exactement. Je ne l'ai pas revu depuis 1996. Et 25 ans plus tard, il m'a semblé intéressant, justement, dans une tentative de compréhension des circonstances de son abandon, d'essayer de re-raconter cette histoire en le mettant face à face avec ses démons, ses fantômes, ils sont nombreux, et aussi ses échecs, en l'occurrence des échecs notamment professionnels, mais pas seulement.
Jackie, c'est son surnom, c'est ça?
Jackie, c'est son surnom. Son vrai prénom, c'est Jacques Maurice Albert Passeron. J'ai grandi dans un monde où Passeron, ça voulait dire boucher-charcutier. Quand je suis allé fréquenter l'université de sciences humaines à Nice, tout le monde voulait me faire dire que j'étais de la famille de Passeron, le sociologue.
Oui,
et quand je disais non,
pour Dieu, Passeron, évidemment,
les héritiers. Et quand je répondais que j'étais de la famille du boucher-charcutier de l'arrière-pays niçois, je voyais bien dans les yeux des enseignants que c'était une réponse éminemment déceptive. Alors que dans mon village, Passeron, c'était un nom éminemment respecté pour la boucherie. Il se trouve que je suis le premier passeron de ma famille qui n'est pas boucher-charcutier et que dans cette impossibilité qu'a eu mon père de me transmettre son patrimoine, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'abandon.
Jackie, c'est son...
C'est le diminutif.
C'est diminutif. Mais à l'université, vous dites que les étudiants vous ont révélé que ce nom, Jackie, était un nom commun. Jackie, c'est le genre de beauf de campagne qui roule dans des voitures bricolées avec des tags de gadgets à la con.
Il se trouve que j'étais à l'université et oui, j'avais entendu ce nom comme un nom commun. Je me rappelle d'un camarade qui m'avait dit « Mais tu me prends pour un Jackie ou quoi ?» Et je n'avais aucune connaissance de cette signification. Je connaissais le mot « bof » évidemment, mais pas ce nom propre-là. Et donc quand je lui ai demandé effectivement de me dire ce qu'il entendait par là, il a non seulement utilisé le prénom de mon père, mais il a surtout décrit mon père. Et que là, il y avait une double blessure qui est à la fois que le prénom de mon père est un stéréotype, mais que mon père est lui-même ce stéréotype.
Ah, d'accord. Bon, venons-en à l'anniversaire, Andrea Bayani. Ce que vous décrivez, vous, c'est un enfer domestique. D'ailleurs, je cite votre expression. et autour, encore une fois, du père. Enfin, votre mère est très présente dans le livre, mais l'enfer est provoqué par le père. Alors, nous reviendrons, vous dites que ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas une autofiction, mais donc parlez-nous un peu du père du narrateur.
Oui, ça c'est intéressant, j'étais très intéressé à écouter Anthony. Le sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi le sujet sociologique. Là, il y a l'histoire de l'anniversaire, c'est une double histoire, d'une certaine façon. Le père du narrateur est le père qui arrive d'une famille très riche, qui est tombée dans l'enfer, dans le rien. C'est une famille bourgeoise, a été une famille bourgeoise à Rome. Et après, dans les années 70, il y avait cette émigration dans les travaux publics. Et le père, ce qu'il fait, c'est d'utiliser d'une certaine façon la possibilité, la chance qu'il travaille dans le public, lui donner. Et dans une certaine façon, il laisse toute la famille de la mère et des frères et des sœurs qui habitent Rome, et il va avec la famille dans le nord de l'Italie, près de Torino. Et donc le père, c'est l'histoire d'un premier abandonnement du père de la famille d'origine et d'un voyage, d'un fuite au nord avec la femme et les deux enfants. Et après, il y a l'histoire d'une sorte de totalitarisme, on pourrait le dire. Après avoir fui du Rome, il décide de couper toutes les relations avec Rome et d'emprisonner d'une certaine façon la famille dans un endroit, dans un appartement, sans le téléphone, sans la possibilité d'être en relation. Et donc la construction d'un petit système totalitaire qui est fondé sur la peur et en même temps sur la violence. Et donc la peur que l'extérieur de l'appartement peut être présent et fournir une possibilité à la mère d'avoir une autre vie, et le désir, qui c'est pas seulement un désir, c'est une volonté très forte d'enfermer toutes les personnes de la famille. Et ça, c'est la chose qui va convaincre, d'une certaine façon, la femme du père du narrateur, d'accepter une vision sociale de la femme qui était la partie invisibilisée de la famille. Et donc, dans ce système totalitaire, il va devenir moine jusqu'au moment que le fils ne peut pas accepter le système.
Quel était le métier exercé par ce père?
Il était dans un générique ministère.
Ah d'accord, dans la fonction publique.
Dans la fonction publique. Ah, et ça, c'était, sociologiquement, c'est pour ça que j'étais très intéressé à ça, c'était la façon de l'émigration dans les années 70, du sud, du centre de l'Italie, jusqu'au nord.
Nous reviendrons sur ce père et sur la violence qu'il faisait subir aux siens. Mais revenons au vôtre, Anthony Passerin. Je lis la première page du livre. « Mon père a disparu en l'espace de 3 consoles de jeux. » Et les jeux vidéo, dans ce portrait de Jackie, tiennent une place très importante. Et je dois vous dire que pour moi, c'était une découverte. J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant. J'ai appris que Nintendo, ça voulait dire laisser sa chance au ciel. J'ai appris qu'il y avait des jeux vidéo qui s'appelaient « SeaQuest », Space Invaders, Zelda, Altered Beast. Vous allez jusque dans les détails. C'est donc une belle leçon pour moi. J'ai appris aussi l'histoire des Game Boys, etc. Expliquez-nous pourquoi, dans ce livre sur Jackie, avoir accordé une telle place aux jeux vidéo. Qu'est-ce que ça signifie, Anthony Passeron?
Ça signifie d'abord que je me suis improvisé auteur de romans en pensant que l'histoire de ma famille n'était pas suffisamment importante pour intégrer les livres. Et que dès mon premier roman, ce que je fais, c'est que je vais chercher une histoire collective que j'articulerai avec mon histoire intime pour lui permettre de rentrer, en fait. C'est une sorte de béquille. C'est un stigmate, et je tiens à ce stigmate. C'est-à-dire que parfois on me dit, tu n'aurais plus besoin de cette histoire collective, tu as le droit de raconter ton histoire intime, mais j'y tiens comme un stigmate pour rappeler que encore trop de gens ne s'autorisent pas.
Mais pourquoi un stigmate ?
C'est une formule assez exagérée, mais je veux garder dans mon écriture la trace qu'elle n'a jamais été une évidence.
Oui, d'accord, ça n'a pas été une évidence, mais quel lien faites-vous entre le jeu vidéo et la trajectoire de Jackie ?
Quand il s'est agi de raconter l'histoire de ce père, c'est un père qui échoue à transmettre. Il échoue à transmettre son métier, il échoue à transmettre un patrimoine économique, un patrimoine artisanal. Il échoue même à transmettre ses valeurs viriles à ses enfants. Et donc, quand on s'interroge sur une disparition, on s'interroge beaucoup sur ce que les gens ont laissé derrière eux. Et j'ai beaucoup réfléchi pour savoir qu'est-ce que ce père avait-il bien pu laisser derrière lui. Et la seule fois qu'il a vraiment initié ses enfants à quelque chose, il se trouve qu'il était certes boucher-charcutier, qu'il avait une vie extrêmement austère, mais au tournant des années 80, il est un peu émerveillé par l'électroménager en général, les magnétoscopes, les téléviseurs et les consoles de jeux. Et là, il va offrir à ses enfants une étrange machine noire qu'on appelle un Atari 2600. Et il la connecte à la télévision et tout d'un coup, Pierre Belmar, qui vendait du répulsif pour les fourmis, disparaît de l'écran. Et une scène d'invasion extraterrestre interactive apparaît. Et ça, c'est un choc esthétique pour ces enfants. Il y avait une tentative à la fois de réhabiliter une géographie dans ce livre, mais aussi de réhabiliter, en plus d'une géographie de seconde zone, une culture de seconde zone.
Ah, et réhabilitation de cette culture, c'est ça ?
Au moins, une tentative modeste d'essayer de lui faire prendre sa place en tant que culture à part entière, en tant qu'objet de narration. Et c'est vrai que si aujourd'hui j'écris des livres, si je suis passionné par la narration, par les choix narratifs, etc., c'est en grande partie aux jeux vidéo que je le dois d'abord, et ensuite au cinéma, puis évidemment plus tard à la littérature. En l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'est que ces consoles de jeux, dans un récit que je tenais à être extrêmement pudique, allait me servir d'objet transitionnel. Ils allaient me permettre de raconter la relation qui s'amenuise entre un père et son fils, une rupture générationnelle, puisqu'en l'occurrence, elles vont aussi devenir l'objet de la discorde entre le père et les enfants.
Pour que les gens comme moi, il y en a encore quelques-uns, comprennent. Il y a SeaQuest, Space Invaders, Zelda, Altered Beast. Raconte-nous un jeu vidéo, une histoire pour qu'on puisse comprendre l'intérêt que ça a pu avoir pour vous contre la vie de votre mère, dans laquelle je me reconnais, qui s'arrachait les cheveux en disant « il faut lire, il faut être bon à l'école, etc. » Et vous et votre frère, vous manipuliez ces jeux vidéo. Alors, raconte-nous-en un.
Je me cantonnerais, s'il fallait en choisir un, je parlerais du premier volet de Zelda, parce qu'effectivement, il arrive dans mon domicile, en tout cas dans la cour de récréation, quand je suis au cours préparatoire. Et donc, au moment où je suis censé m'émerveiller à la lecture, que je découvre, oui, tout d'un coup, il y a un autre objet culturel beaucoup plus attrayant. Et surtout, il est, encore une fois, mis en valeur par la société de consommation, beaucoup plus que la littérature, vous vous en doutez. Ce jeu vidéo, c'est le créateur de Super Mario à qui on demande de créer un nouveau jeu dans un nouveau paradigme. Et en l'occurrence, Nintendo arrive au moment où les consoles de jeux gagnent les domiciles. Et donc, le jeu vidéo n'est plus une expérience du café, du bar. Il faut créer une aventure narrative qui soit beaucoup plus longue que pour nous occuper 5 minutes au PMU, si j'ose dire. Il va créer un jeu qui consiste en une vaste quête. Zelda et tous ces ersatz qui sont sortis par la suite, on se déplace dans un monde ouvert, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller. On explore un territoire entièrement reconstitué et donc on doit délivrer une princesse. Et à la fois, ce jeu m'a enfermé chez moi, je dois le dire, de longues heures. Il m'a même obligé à apprendre mes premiers mots d'anglais, puisque le jeu à l'époque n'était pas traduit en français. Et il m'a aussi ouvert une porte vers l'extérieur, c'est-à-dire que le samedi après-midi, j'allais avec mes camarades, après avoir fauché une pioche dans le garage de mon père, j'allais creuser à la découverte des trésors que j'avais vus dans le jeu.
Merci pour ces informations. J'ai appris aussi l'existence des salles d'arcade. C'est quoi les salles d'arcade ?
Les salles d'arcade, c'est ce qu'on appelle toujours les salles de jeu, qui sont un peu tombées en désuétude, qui reviennent un peu à la mode parfois, mais c'est ces endroits où il n'y a exclusivement que des jeux vidéo.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, j'ai découvert dans votre livre aussi, Andrea Baiani, que le narrateur souffrait d'une addiction aux jeux vidéo. Ça l'amenait à chaparder de l'argent dans les bourses de la famille. Son père s'en est aperçu et il a un droit, le pauvre narrateur, à une correction terrible de la part du père. C'était quoi cette addiction aux jeux vidéo ? C'est un phénomène générationnel ? C'est quoi ? Andrea Baiani.
Oui, c'est très intéressant les choses qui Anthony était en train de dire l'objet transitionnel. Probablement, il y a eu dans la génération des gens pendant les années 90 ou quelque chose comme ça. Il y a eu probablement la première transition du... On est passé de la vie concrète, de la vie réelle, dans l'écran. Ça a été la première, probablement la première disparition, le début de la disparition de la réalité. La chose qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéresse, et qui, dans le roman, dans l'anniversaire, joue un rôle très fort, c'est l'idée qui est connectée aux jeux vidéo aussi, de la technologie. Comment la technologie, ça change les habitudes des personnes. Les jeux vidéo pour la génération du fils, mais surtout, la chose qui c'est plus importante dans l'anniversaire, c'est le téléphone. C'est la technologie qui arrive avant et qui c'est la transformation des relations personnelles dans une relation qui va à travers la loi. Toutes les générations, probablement, il y a une lutte contre les technologies des générations des enfants. Et donc, dans l'anniversaire, le téléphone, c'est la technologie qui a plus part parce que c'est la façon du père de casser les relations avec l'extérieur et voilà. Construire une sorte de propagande d'une réalité qui s'existe simplement, seulement dans l'appartement.
C'est intéressant, en effet, le rôle joué, Andrea Baiani, par le téléphone dans votre roman. D'abord, la famille n'a pas de téléphone. Puis, elle l'a, mais sous la surveillance du père. Donc, difficile de parler. D'ailleurs, le téléphone, c'est pas le jeu de vidéo. Le téléphone, c'est une relation avec l'extérieur. Le jeu vidéo, c'est une attaque contre le monde réel. C'est l'apothéose du virtuel. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis surtout, le téléphone joue un rôle aussi parce que il y a un personnage tout à fait étrange. Alors, est-il inventé, n'est-il pas inventé? De toute façon, vous ne le direz jamais, même sous la torture. Il y a donc la psychanalyste, une thérapeute que le narrateur rencontre grâce à sa famille choisie, à sa famille payante, comme vous dites, ou payée, je ne sais pas, c'est-à-dire la pizzeria, la pâtissière, etc. Elle a 80 ans et le téléphone est pour elle un instrument, c'est-à-dire elle demande à ses patients de lui téléphoner et quand ils viennent la voir, d'autres patients téléphonent et elle interrompt la séance pour répondre au téléphone. Donc, ça veut dire quoi, cette importance du téléphone, Andrea Baiani?
Oui, je suis intéressé quand j'étais en train d'écrire. En général, j'ai toujours été intéressé à la famille en tant qu'organisme politique. C'est une organisation dans un espace qui c'est un espace d'un appartement, d'une maison. Il y a une organisation, il y a la gestion du pouvoir. Et donc, il y a une petite société. Notamment en Italie, la petite société des familles, c'est plus important que la société de l'État, la société publique. C'est quelque chose qui est ensemble une société politique et archaïque en même temps. Et donc, la chose qui m'a toujours intéressé dans les familles, c'est de voir la gestion du pouvoir et de les décrire comme des organismes politiques. Et donc, là, quand la famille s'installe dans le village, la chose qui se passe, c'est... Et le téléphone joue le rôle du mur de Berlin. D'une certaine façon, là, c'est comme être dans une partie de Berlin. Et l'autre partie de Berlin, qui c'est dans une autre place, ne peut pas avoir et ils ne doivent pas savoir ce qu'il se passe dans le monde libre. Et donc, n'avoir le téléphone dans cette famille, c'est comme être à côté du mur qui passe dans la ville de Berlin, dans l'Italie. Et la chose qui se passe, c'est dans la description de quand le téléphone arrive, il y a cette personne, cet ouvrier qui arrive à installer le téléphone. Et la chose qu'il doit faire, c'est de casser le mur. Et ça, c'est le moment qui arrive à la fin des années 90. Et donc, 10 ans après la chute du mur de Berlin, et c'est le début de la démocratie, d'une certaine façon, qui arrive dans le système totalitaire. Et le père, en tant que dictateur du système totalitaire, il le savait, comme les dictateurs dans les organisations politiques qu'on a connues dans l'histoire du XXe siècle, il savait que la connexion avec l'extérieur, c'est le pire. Au contraire, la façon de travailler de cette psychanalyste, de cette thérapeute, c'est le contraire. C'est, il fait le même travail que fait la littérature, c'est-à-dire déconstruire l'idée calcifiée d'une propagande, même la propagande que les individus font de soi-même. Et la chose qu'elle fait, c'est de la construire et la libérer. Et dans ce travail de cette psychanalyste, le symbole, d'une certaine façon, de ce travail avec la démocratisation de soi-même, c'est l'utilisation du téléphone. Et le téléphone peut interrompre la conversation, la session de psychanalyse, et c'est l'extérieur qui arrive à casser tous les propagandes des gens qui sont dans le cabinet de la psychanalyste. Et donc, le téléphone, pour moi, c'est un personnage et un personnage qui joue une fonction politique dans le roman.
Alors, nous reviendrons sur ce terme de politique, mais diriez-vous, Anthony Passeron, de votre père, puisque vous reconnaissez le caractère autobiographique du livre, que c'était un dictateur? Est-ce ainsi que vous formuleriez les choses? Parce que il y avait chez lui une apologie de la force physique. Il méprisait ses fils parce qu'ils jouaient mal au handball. Il méprisait pour ça, et dans ce village où vous viviez, c'était une communauté minuscule au sein de laquelle on n'existait jamais que par la force physique. Donc voilà. Comment qualifieriez-vous ce père-là, Jackie, Anthony Passeron?
Je pense que le roman de Andrea Baiani, fut-il un roman, je voudrais lui exprimer une certaine gratitude parce que grâce à son roman, j'ai compris quelque chose de mon père que je n'étais pas en mesure de formuler avant. Et je vais sans doute le formuler avec des mots maladroits parce que je n'en suis conscient que depuis très récemment. Mais il me semble que dans ces visages de père dictateur, chez le mien, c'était effectivement moins net. Mais par contre, j'ai reconnu dans les deux figures du père une sorte, paradoxalement, on reviendra sûrement tout à l'heure sur la question du patriarcat, mais paradoxalement, avec l'image qu'on se fait du patriarche, il m'a semblé apercevoir dans ces deux personnages de père une immense immaturité, et notamment une immaturité à l'endroit de la gestion de la frustration, de l'échec. De la même manière que le père du roman « L'anniversaire » peut faire payer très cher à sa femme et à ses enfants ses échecs personnels, qu'ils soient professionnels ou intimes, mon père ne s'est jamais projeté que dans l'échec. Et en l'occurrence, il voyait dans la sensibilité de ses deux fils quelque chose que dans le milieu dans lequel j'évolue aujourd'hui, on verrait justement cette sensibilité comme une grande qualité potentielle. Lui, il ne voyait que faiblesse. Et il s'est toujours dit que ses enfants échoueraient à se faire respecter. Ils échoueraient à s'en tirer sains et saufs de toutes les situations. Et en l'occurrence, Andrea parlait tout à l'heure d'une rupture temporelle avec l'arrivée de la modernité, qu'elle soit représentée par le téléphone ou les jeux vidéo. Mais il me semble qu'au regard de leur propre fils, ces deux pères semblent presque avoir grandi au Moyen-Âge. Et en l'occurrence, mon père était un dictateur très absent, contrairement au personnage d'Andrea qui est très présent à la maison.
Étouffant de présence.
Exactement. Et mon père, c'est plus son absence qui nous posait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un étouffement par ailleurs. Mais en l'occurrence, et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à la lecture du roman d'Andrea, c'est cette grande immaturité. Et j'ai aussi reconnu quelque chose, c'est mon incapacité à faire de ma mère autre chose qu'un personnage secondaire. Alors que si j'étais objectif et honnête, le parent que j'ai le plus connu dans ma vie, c'est ma mère, évidemment. Même avant l'abandon de mon père était déjà absent. Et j'ai été très touché par ce qu'il raconte sur son incapacité à écrire la mère, justement à cause de l'ombre du père.
Oui, et d'un autre côté, dans votre livre, Andrea Bayani, la mère était très présente, c'est-à-dire elle est présente par son absence même. Et elle a d'une timidité qui va jusqu'à la négation de soi. Mais je dirais que c'est le personnage principal du livre. Elle, à un moment donné, pour ne pas déranger le père, je ne sais pas quoi, enfin, elle se lave les dents dans l'eau de la cuvette des toilettes. Et il a quelque chose de bouleversant en même temps, cette femme, parce que à chaque fois que son fils devenu grand quitte le domicile familial, après un repas, elle dit « j'espère que tu reviendras bientôt ». Et c'est d'ailleurs le mot qu'elle prononce le jour où le fils décide de ne plus jamais voir ses parents. Et ça me fait penser, Mutatis Mutandis, à un film de Gad Elmaleh, sur sa propre mère d'ailleurs. Le titre est merveilleux, « Reste un peu ». C'est-à-dire, le fils s'en va, il est déjà 4 heures l'après-midi, « Reste un peu ». Et ça, c'est le mot de la mère, c'est-à-dire aussi invisible qu'elle soit, aussi peu encline à exprimer ses sentiments, il y a cet attachement, et ce qui a dû être quand même la culpabilité du narrateur, au moment de dire « j'abandonne mes parents », parce que Anthony Passeron, c'est le père qui abandonne ses enfants et sa femme, jusqu'à disparaître. Et là, c'est un fils qui n'en peut plus, parce que pendant les discussions des repas, il s'arrache des touffes de barbe, tellement c'est douloureux. Donc c'est un enfant qui abandonne ses parents, et notamment sa mère. Notamment sa mère, victime d'un père frustré, ou direz-vous, du système patriarcal. Andrea Bayani.
Oui, j'étais très intéressé à ce qu'Anthony Passeron disait autour de l'immaturité du père. Et le sujet de l'absence et de la présence, c'est très important pour l'anniversaire, c'est-à-dire que, et j'essaie de mettre ensemble aussi la question du patriarcat sur laquelle que vous avez nommé, c'est-à-dire que le narrateur, il vit dans une situation, dans une organisation qui est une sorte d'organisation traditionnelle, c'est-à-dire la famille patriarcale, c'est-à-dire la famille dans laquelle, politiquement et culturellement, le père, en tant qu'homme, a le droit de fournir la version officielle du roman familial. Et donc, il a le droit, supporté par la société, de dire qui est le protagoniste, il est l'homme, qui a le droit de commander. Et après, il y a la femme qui, socialement, doit être le deuxième. Et alors, le narrateur, il habite dans un système et il accepte, dans une certaine façon, et il soutient, dans une certaine façon, l'idée que la mère, et donc la femme du père, arrive deuxième et qu'elle n'existe pas. Elle est invisible. Et donc, le mouvement du roman, c'est du début de rejeter la version patriarcale de l'homme et de la rejeter après l'avoir cru, après l'avoir soutenu. Et dans cette croire à la version familiale et donc dans cette croire à la propagande, qui c'est la propagande dans la famille et dans la société, c'est pas seulement privé, c'est la chose, c'est politique, c'est plus grand que ça, il comprend qu'il ne sait rien de sa mère. Et donc, l'invisibilité de la mère socialement acceptée est devenue l'invisibilisation. Et donc, cette grande absence qui arrive d'un choix personnel et politique doit être contextée par le conte et l'invention de la mère et de la faire la protagoniste et d'éteindre la lumière sur le père.
D'accord. Alors là, Vous avez utilisé le mot politique, le mot patriarcat l'un et l'autre. D'ailleurs, vous refusez l'idée d'autobiographie ou d'autofiction d'Andrea Bayani en disant que le roman doit être un activateur de l'autobiographie du lecteur. Et vous reconnaissez que ce livre a eu beaucoup d'écho en Italie parce que c'est la première fois qu'un homme conteste le patriarcat permettant une alliance entre les lecteurs et les lectrices. Ma question est simple. Selon vous, vivons-nous aujourd'hui encore dans une société patriarcale et cela donne-t-il un sens politique à vos ouvrages? Commençons par vous, Anthony Passan.
Tout d'abord, par patriarcat, je me garderais bien d'en prendre la définition ethnologique, anthropologique, etc. Par patriarcat, dans votre question, j'entends le nom commun qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire une société dans laquelle l'homme oppresse la femme, dans laquelle il est encore largement dominant au détriment des femmes. Je me suis longtemps bercé d'illusions en pensant que je n'étais pas concerné par cette question. Et d'ailleurs, j'avais comme argument massue le suivant. Il y a dans ma famille des femmes extrêmement fortes, extrêmement puissantes, avec un fort caractère et une grande capacité d'action. Et je pense à ma grand-mère paternelle et je pense à ma mère. Et l'écriture de mes deux livres m'a permis de réaliser que ces personnages de femmes fortes existaient seulement face, alors je vais le dire avec un mot fort parce que ça concerne ma famille, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais dans ma famille, c'est grâce à la lâcheté des hommes. Quand il a fallu s'occuper d'un fils toxicomane, malade du sida, avant les traitements, mon grand-père s'est occupé de la boucherie et ma grand-mère s'est occupée, si j'ose dire, de l'hôpital et des services dans lesquels il n'y avait aucun espoir. De la même manière, dans Jackie, mon père refait sa vie avec une jeune fille de 15 ans et il abandonne la femme de son premier mariage et deux adolescents. Et en l'occurrence, j'ai compris a posteriori que la puissance de ces femmes venait non pas de la faiblesse des hommes, mais de leur possibilité qu'ils avaient de tout abandonner. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le roman d'Andrea, c'est que finalement, le personnage de la mère, pour l'opposer à la fameuse, au manque de maturité du père, c'est le seul personnage qui comprend tout, tout le temps. Et qui prend sur elle et qui fait passer ses enfants avant elle, qui fait passer la réussite de ses enfants avant l'échec du père, avant son propre échec à elle, etc. Et en l'occurrence, j'ai découvert a posteriori, alors que à mon corps défendant, que ma famille paternelle me semblait être effectivement une famille patriarcale, dans le sens où le loisir était réservé aux hommes. Et pour conclure, j'irai jusqu'à l'exagération volontaire, mais je ne me souviens plus du nom de l'artiste contemporain qui dessine les dictateurs et les dirigeants autoritaires de la planète en petit enfant capricieux. Et en l'occurrence, j'ai découvert ça chez certains hommes, en l'occurrence dans le livre d'Andrea, mais aussi dans les hommes de ma famille, ce sont ceux qui ont tellement le pouvoir qu'ils peuvent tout faire basculer pour leurs échecs personnels. Alors que chez les femmes, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, sans vouloir généraliser, je pense que dans cette famille-là, en tout cas, il y a beaucoup plus de possibilités du côté de l'homme que de la femme.
Mais je réitère ma question, Andrea Bayani, vous avez écrit un livre politique, vous dénoncez un ordre ou un système. Je vous demande, croyez-vous que ce système sévisse encore en Italie, en France, dans le monde occidental, Andrea Bayani?
Oui, bien sûr, je pense qu'il existe beaucoup, il est très présent. Et c'est pas la chose qui m'intéresse, moi, c'est la survivance de quelque chose qu'on pense qui est de notre époque. Et nous, très souvent, on est dans les villes, et dans les villes, on pense que ce sont des choses du passé, et dans les grandes villes, que ça n'existe plus. Voilà, après, on va dans la province, on va, qui c'est la vaste majorité, c'est la majorité qui c'est, il y a en Italie, en France, aux États-Unis, partout, en Allemagne, et c'est encore très présent un système dans lequel la société encore donne aux hommes le droit et l'idée qu'ils peuvent utiliser, qu'il c'est normal d'utiliser la force physique et la violence parce que c'est la façon de gérer une organisation politique. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on lit sous les journaux. C'est pas quelque chose que on a simplement des interprétations. Et donc, pour moi, c'est une question politique, et c'est une question politique qui ça existe, et c'est une question politique le fait surtout que aussi les hommes doivent questionner l'existence de l'organisation patriarcale des familles.
Alors là-dessus, je vais vous exprimer mon désaccord. J'ai l'impression quand même que vous négligez le développement de ce que Tocqueville appelait l'égalité des conditions dans les dernières décennies. Présente sur le marché du travail et pour la plupart indépendante financièrement, les femmes aujourd'hui, dans tous les milieux, divorcent quand elles veulent, comme elles veulent. Ce sont même elles qui, dans la majorité des cas, prennent l'initiative de la rupture. En France, en tout cas, l'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle. Et si vous lisez l'article 213 du premier code civil, eh bien, le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Ces mots de protection et d'obéissance n'ont pas résisté à la grande révolution égalitaire. En l'espace, je le répète, de quelques décennies, la situation juridique des femmes a changé de fond en comble. Donc je crois quand même que le patriarcat est un phénomène qui existe, c'est sûr, mais il ne définit pas notre société. Il est, il me semble, résiduel. Anthony Passeron.
Je me verrais mal venir à votre micro contredire Tocqueville. Il se trouve que je suis d'accord avec la citation que vous avez faite, qui montre que dans la structure de notre société, quelque chose du patriarcat est en cours d'effondrement bien avancé. Par contre, je me permettrai modestement d'émettre deux réserves. La première, c'est que si vous voulez, comme les jeux vidéo sans doute, la lutte contre le patriarcat est une drogue à accoutumance. Plus vous luttez contre le patriarcat, plus votre acuité face au moindre élément patriarcal grandit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que j'appartiens, contrairement à mes parents qui étaient des ruraux de la classe moyenne, je fais partie des urbains favorisés, dans lesquels j'ai le loisir, avec mes proches, de lire des livres sur le patriarcat, etc., etc., dans lesquels j'ai du loisir, du temps pour réfléchir, etc. Et pourtant, je vois encore quelques rares situations dans lesquelles il y a une sorte de primauté à l'homme. Comme si quelque chose, quand bien même les fondements de la société, notamment le fondement législatif, avaient évolué, comme s'il y avait une petite résurgence. Alors petite, entre guillemets, parce qu'elle est petite pour certains, beaucoup plus grande d'un foyer à l'autre, j'imagine, mais qu'il y a peut-être justement cette lutte, c'est peut-être une lutte perpétuelle qu'il faut peut-être considérer comme telle.
Peut-être, peut-être. Et d'autre part, Andrea Bayani, vous parlez dans votre livre, c'est au nom de cet autre « Made in Italy », qui consisterait en des centaines de milliers de petits points, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Australie, d'enfants devenus parents à leur tour à l'étranger, demandant à la planète, c'est-à-dire à la courbure de la Terre et au fuseau horaire, de les protéger, de les écarter, de les sauver des êtres qui les ont mis au monde. Et vous m'avez dit vous-même que vous habitiez Houston. Mm-hmm. Ça fait très 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 loin, en effet, de l'Italie. Plus loin, beaucoup plus loin même que New York. Donc voilà, ça c'est peut-être la preuve de cette survivance. Mais d'un autre côté, il faut mener, être à l'heure, si vous voulez. Ne pas mener forcément aujourd'hui les combats d'hier. Andrea Bayani.
Oui, et les phrases que vous avez lues, c'est très intéressant. Et tout à fait, je suis d'accord que le patriarcat, c'est résiduel. Moi, je le pense vraiment, mais d'une façon plus compliquée. C'est-à-dire, c'est d'une certaine façon, c'est résiduel, mais il y a beaucoup d'appartements partout, dans les villes et dans les provinces, dans lequel, s'il y a un homme qui hurle, qui crie et qui utilise, qui a de la violence, personne ne dit rien. Peut-être un appartement en trois bâtiments. Mais ça, c'est résiduel, probablement, mais c'est grave que ça existe. Et je pense que c'est vraiment résiduel, parce que le problème aujourd'hui, c'est pas le patriarcat, d'une certaine façon, mais c'est la désintégration la disparition des liens entre les personnes.
Ah, ça, c'est
et donc,
juste.
Ça, c'est la chose qui, aujourd'hui, c'est majoritaire. Et ça, on doit le dire, parce que le fait que c'est la solitude, aujourd'hui, majoritaire, c'est le fait que personne ne peut pas demander de l'aide à personne parce qu'ils sont seuls dans ces appartements et ils peuvent seulement poser la question, peut-être en Internet, pour savoir s'il y a quelqu'un qui va les aider et s'il essaie de demander de l'aide au téléphone, il y a une voix enregistrée qui s'est tapée un, tapée deux. Et donc, je suis d'accord que c'est résiduel. Et le problème aujourd'hui, c'est la disparition, la désintégration sociale et la solitude dramatique des gens dans ces appartements.
D'ailleurs, on ne va pas seulement sur Internet, on va maintenant sur ChatGPT pour demander conseil quand on souffre de la solitude. Et je connais quelqu'un qui a interrogé ChatGPT toute la soirée, jusqu'à une heure avancée de la nuit, et ChatGPT à un moment a répondu, ChatGPT fatigué, maintenant ça suffit, va te coucher. C'est des dialogues, en effet, d'aujourd'hui, de la société post-patriarcale, de la société désintégrée. Anthony Passon, vous voulez dire...
Je voudrais revenir sur ce que vient de dire Andrea. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à l'endroit des nouvelles formes ou des anciennes formes de famille. Se valent-elles, ne se valent-elles pas? Mais je pense qu'Andrea a aussi appuyé sur quelque chose de fondamental. Il n'est plus question de forme de famille, il est question d'absence de lien social. Fut-elle une famille choisie avec des amis, fut-elle, etc. Et le livre de votre compatriote, I Perfezioni, de Vincenzo Latronico, paru chez Gallimard, sous le titre Les Perfections, raconte aussi la vacuité contemporaine de gens qui vivent exclusivement comme ça et qui vivent dans une terre presque à la surface d'une planète qui est presque indifférenciée et dans laquelle ils n'ont plus d'histoire et ils n'ont plus non plus de géographie. Et en l'occurrence, je pense qu'il se trouve que j'ai pas fait la trajectoire du narrateur de l'anniversaire. Moi, je me suis déplacé que de 50 km dans ma vie, mais j'ai changé de monde. Et en l'occurrence, cette distance, si mince soit-elle, me permet d'exister en dehors de ma famille. Et il me semble que ce besoin qu'on peut avoir, qu'on traverse un océan ou qu'on traverse juste une rivière comme moi, est aussi le symptôme de quelque chose qui fait que les individus peinent encore à exister en dehors de la famille.
D'ailleurs, malgré votre addiction aux jeux vidéo et même à un moment aux bandes dessinées, au grand regret de votre mère, Anthony Passeron, vous êtes devenu professeur, donc lecteur. Comment s'est faite cette trajectoire et vous êtes professeur de quoi, Anthony Passeron?
Alors, je suis professeur de lycée professionnel et dans l'enseignement professionnel en France, les profs sont bivalents. En l'occurrence, j'enseigne l'histoire, géographie et l'éducation civique ainsi que le français.
Où?
J'ai longtemps été à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis à Nice. Si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'addiction pour ma pratique des jeux vidéo. J'en ai eu une pratique extrêmement forte, mais j'ai été, entre guillemets, sevré. J'allais dire sauvé, mais je vais dire sevré par l'internat. Parce que quand je suis entré en lycée général, il a fallu quitter le village et donc je me suis retrouvé dans un internat où il n'était pas question d'amener mon téléviseur et ma console de jeu. Et donc là, j'ai décroché des jeux vidéo. Mais en l'occurrence, c'est peut-être aussi comme ça qu'effectivement, j'ai redécouvert les livres a posteriori. Ma mère se désolait.
Oui.
Que je ne lise pas, vous l'avez dit. Elle-même ne lisait pas ou très peu. Et c'était très curieux parce que donc j'ai réalisé plus tard que je venais d'une famille qui ne lisait pas tout en étant consciente de la valeur des livres. Ce qui me semble être quand même un paradoxe.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que Bourdieu appelait la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie. C'était avant qu'il considère la culture elle-même comme un simple système de distinction.
Et aujourd'hui, alors que j'écris, si j'offre un roman à ma mère, elle peut le prendre comme une agression.
Ah oui.
Parce que offrir un livre dans ma famille, c'est potentiellement penser que celui qui offre le livre se croit plus intelligent que celui à qui on l'offre. Je fais très attention à ça. Il y a beaucoup de livres que j'aimerais partager avec elle, mais je l'ai déjà entendu dire « Ah, un tel m'a offert un livre et il me prend vraiment pour une ignare ».
Elle a lu Jackie ou non?
Oui, absolument.
Ah, quand même?
Oui, oui.
Quand même. Andrea Bayani, je voudrais revenir à votre livre, à une épigraphe que je trouve très belle, mais que j'aimerais que vous commentiez. C'est de Louise Gluck. « Voilà pourquoi il ne faut pas me faire confiance, parce qu'une blessure au cœur est aussi une blessure à l'esprit. » Que veulent dire ces deux vers et pourquoi les avoir choisis en épigraphe à l'anniversaire, Andrea Bayani?
Ce sont deux épigraphes dans l'anniversaire. Oui. Le premier, c'est de Anne Carson, et le deuxième, c'est de Louise Gluck. J'étais intéressé à voir, dès qu'on a déjà parlé, du fait que la mère, la femme qui est socialement considérée deuxième, que deux femmes étaient les protagonistes, même dans les épigraphes de l'anniversaire, et qui, deux poètes, que sont Anne Carson et Louise Gluck, étaient en dialogue. Et pour moi, c'était la chose, dans une certaine façon, de considérer la poésie, l'espace où les mots, ensemble, arrivent d'une certaine vérité, qui est la vérité des lecteurs et des écrivains quand il lit et quand il se rencontre dans la page.
Oui, mais pourquoi commencer par ces mots? Voilà pourquoi il ne faut pas me faire confiance. Les blessures de l'esprit, ça apporte une blessure au cœur et est aussi une blessure à l'esprit. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance au narrateur?
Que la littérature, c'est toujours quelque chose qui est très sérieux et un jeu. En même temps.
Ah d'accord, un jeu, donc nous n'en saurons pas plus.
Très bien. Jeu sérieux des enfants.
Le jeu sérieux des enfants. Il nous reste très peu de temps, mais je vous demanderai quand même, Anthony Passeron, d'évoquer les figures des morts autour de vous, dans votre famille. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu vos oncles, Yule et Désiré. Il y a eu Émilie, qui est morte du sida parce que Désiré, son père, était atteint du sida. Il y a eu même Pierre, un apprenti de votre père, qui s'est suicidé. Alors, vous avez donc vécu entouré par les morts.
Absolument. Et encore aujourd'hui, quand le téléphone sonne et que c'est ma mère qui téléphone, ma femme, en plaisantant, dit « Tiens, quelqu'un est mort ». Parce qu'elle m'a fait remarquer, elle qui vient d'un milieu urbain, de la Côte d'Azur, m'a fait remarquer que les morts s'étaient additionnés dans mon enfance et s'additionnent encore dans ma géographie. Depuis que je fréquente ma compagne, depuis une dizaine d'années, plusieurs fois le téléphone a sonné pour annoncer des morts, et souvent des morts violentes par accident ou par suicide, et quasi exclusivement des hommes. Il est vrai que, sans doute, c'est à la faveur de ces fantômes que j'écris, pour essayer de les faire exister a posteriori.
C'est une bonne raison d'écrire. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je rappelle les titres de vos livres. Andrea Bayani, L'anniversaire. Ce roman est publié aux éditions Gallimard. Jackie, d'Anthony Passeron, est publié chez Grasset. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Christophe Papon.